C'est le moment de vous présenter la chronique Sport Business pour laquelle nous accueillons bien sûr nul autre que Ray Lalonde. Bien, bonsoir mon Ray.
Bonsoir Mario.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci toi.
Ça va très bien. 32 équipes là dans la Ligue nationale de hockey. On le sait que c'est une formalité, mais ça l'est encore plus depuis qu'on a appris qu'à Seattle, bien, on a ouvert les valves pour la construction, la rénovation de l'amphithéâtre là-bas. Donc 2020-2021, c'est plus que plausible. Là, on attend l'annonce officielle dans le fond. Est-ce que j'exagère?
Non, t'as raison. Puis ce qu'on veut dire par la conclusion de cet exercice-là, c'est que la ville de Seattle et le conseil municipal a procédé au vote et ça a été unanime 8-0. Alors, ça, pour les gens qui ont suivi de plus ou moins loin le dossier, ben c'est qu'on avait déjà parlé de la rénovation. À l'époque, 600 millions US. Là, c'est rendu 700 millions US. Ça vaut à peu près, Mario, 920 millions canadiens. Une rénovation.
Deux fois le centre Vidéotron au Québec, ouais, imagine, ouais, en Renault.
En Renault, c'est le Key Arena. Bon, alors... ça, c'est une chose, mais on n'avait jamais donné le OK officiel pour commencer le travail. Là, c'est fait. Mm-hmm. L'appel, le tracteur, la grue, dès demain, ça part. Donc, on va commencer à voir prendre forme la nouvelle version du Key Arena qui va être aussi construite de façon à accueillir un jour une équipe de la NBA.
Mais à 700 millions US, là, Ray, est-ce qu'on garde juste les murs, coudonc, ou que c'est plus qu'une rénovation?
C'est plus qu'une rénovation.
À ce qu'on a fait avec le MSG.
Avec le MSG qui avait coûté $1 milliard. On était allé en trois étapes, trois niveaux dans trois étés, trois étapes de façon à ne jamais perdre un match des Knicks ou des Rangers. Ça va être une construction-rénovation. On va garder la même thématique, la même infrastructure, mais à l'intérieur, ça va être ultra moderne. Et c'est la raison pour laquelle... le mot rénovation est la raison pour laquelle ça a été accepté. Parce que
ça
c'était
passe mieux.
Beaucoup plus favorable pour les résidents, pour les membres du conseil, de rénover quelque chose qui existait déjà, Mario, que de rebâtir ailleurs et d'être pris avec un éléphant blanc gris qui dormait moins utilisé. Alors, je pense que c'est une solution idéale. Ça a été mené de front par Tim Leiweke, le Oakview Group. Tim Leiweke a déjà embauché son frère pour venir être le président de l'équipe. Alors, tu comprends qu'ils ont excessivement confiance,
oui,
en leurs moyens.
Et Gary Bettman, d'ailleurs, semble très, très favorable. Lui aussi attend juste la date puis l'annonce officielle.
Oui, puis je veux... Bon, alors, les dates, c'est quoi?
C'est
la semaine prochaine, c'est présenté au comité exécutif des gouverneurs de la Ligue nationale. Et au mois de décembre, un vote officiel au meeting des gouverneurs en Floride. Alors, en décembre, on va annoncer que Seattle devient la 32e équipe. Et là, on va égaliser les forces Est et Ouest. Et avec une ligue balancée à 16 et 16, 32 équipes.
Un aréna, donc, pour deux équipes professionnelles. La configuration va permettre une assistance semblable pour les deux sports ou tu penses que ça va être différent?
C'est toujours, toujours un peu plus pour la NBA parce que tu peux mettre des partisans sur le plancher. Mm-hmm. Et je ne veux pas me prononcer puis spéculer pour Adam Silver. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une équipe de la NBA qui s'en va là demain.
Mais on sait que le hockey va y aller.
Ou le hockey, oui, mais ils ne sont même pas encore dans un processus d'expansion dans la NBA. Mais c'est une ville qui a déjà existé dans la NBA, qui est parti, les Supersonics à Oklahoma City. C'est sûr que c'est un marché intéressant pour le basketball aussi. Mais je ne veux pas parler au nom d'Adam Silver. Une chose qui est claire, il va y avoir une équipe d'hockey en 2020.
Est-ce qu'on a déjà le détail du nombre de sièges qui seront disponibles ou c'est des détails annoncés plus tard, entre 17 et 18 000?
Oui, c'est 18 500, si ma mémoire est bonne. De bonne taille, la taille classique qu'on entend aujourd'hui. Mais surtout, écoute, une rivalité naturelle avec Vancouver, Mario. Le hockey dans le nord-ouest américain, c'est très populaire.
C'est très fort. Même c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu d'équipe avant.
Exactement. Puis il y en avait une au début du siècle. Là, je remonte à 1909, 1910. Mm-hmm. Là. Si ma mémoire est bonne, c'était les Metropolitans de Seattle. À l'époque de la Ligue nationale, avant la Ligue nationale, la Ligue officielle qu'on connaît aujourd'hui, il y avait une équipe à Seattle. Alors, il y avait une relation, une rivalité aussi avec les équipes du Nord-Ouest américain.
Délaissons Seattle un peu, mais pas tout à fait, pour te dire que ça va faire en sorte qu'on aura maintenant 25 équipes en sol américain et 7 en sol canadien. Jusqu'où on peut aller? C'est quoi la capacité limite, tu penses, pour la Ligue nationale en termes de nombre d'équipes au total? Est-ce qu'on peut aller à 34, 36?
Moi, je pense qu'on peut aller de façon assez sécuritaire à 34 équipes. La raison pourquoi je dis ça, c'est que je regarde la croissance de la MLS. Il y a une couple d'années, depuis à peu près 6-7 ans, la MLS a rajouté 7-8 équipes. Là, ils sont à 23. Il y en a 3 de confirmés déjà dans les deux prochaines années. Miami, Cincinnati, Nashville. Miami, c'est l'équipe à David Beckham. Puis deux autres, officiellement mandatés par Doug Narber, le commissaire. Et on a encore des villes comme Phoenix, Détroit, Sacramento, Saint-Louis qui n'ont pas de club. Donc, eux autres avaient déjà vu depuis longtemps un seuil d'à peu près 28 équipes. Mais pour le hockey à 32, il y a encore quelques villes, dont Houston, dont Québec. Fait que je suis obligé de le dire. Je pense que Bettman n'est pas officiellement là, mais c'est sûr dans ma tête que dans notre vie, le marché de Houston va avoir une équipe. Le propriétaire est ultra riche. Il a l'argent, il a l'aréna, tout lui appartient. Il l'a dit publiquement qu'il veut remplir 45 autres dates. Alors, qu'est-ce que Gary Bettman veut entendre?
Et je rappelle ce que je ramène souvent dans nos conversations, c'est que de tous les sports majeurs en Amérique du Nord, la Ligue nationale de hockey, l'équipe, bon, la MLS, c'est sûr que la MLS n'est pas rendue là encore, là, mais je parle des autres ligues, c'est l'équipe qui a le moins de marché en sol américain. Donc, il y a encore un potentiel d'expansion. Tu viens de mentionner Houston, puis il y a quelques autres villes là qui reviennent dans les conversations, dont Kansas City. Je te dis pas qu'elles vont toutes se doter d'une équipe de la LNH, mais le potentiel de croissance est là. Oui. Au Canada, on pourrait presque dire que c'est plafonné, à moins qu'on y ajoute Québec. Il y aurait toujours Saskatoon un jour. Je ne sais pas quel.
Et Toronto,
un deuxième marché, peut-être même avant Saskatoon et Québec. Mais je veux dire, je ne suis pas sûr que Gary Bettman, à moins qu'il imagine une structure où on pourrait avoir une division canadienne, je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, mais d'avoir. C'est aux États-Unis qu'il veut plus d'équipes, parce que c'est là le marché. C'est là qu'il y a le mouton, comme dit Elvis.
Exact.
Graton.
Ouais. Mario, tu as raison. La simple raison, c'est que depuis 10 ans, il y a eu une énorme croissance dans la richesse de la Ligue nationale de hockey. Puis je sais qu'il y a des auditeurs qui vont dire « Non, mais il y a encore des équipes qui souffrent. » C'est vrai, mais il y a des équipes qui souffrent dans la NFL. Il y a des équipes qui souffrent dans la NBA
aussi. Et il y a une péréquation. Elles s'entraident, ces équipes-là.
Et bon, est-ce qu'il y a des équipes qu'on pourrait qualifier qui saignent, qui ont une hémorragie dans le hockey actuellement? Peut-être quelques-unes, mais moins qu'avant. Il y a une chose qui est claire, il y a 10 ans en arrière, on n'aurait jamais cru que Vegas serait dans la Ligue nationale de hockey et le mot de Houston n'était jamais mentionné. Mais là, ce qu'on est capable de confirmer, c'est que Bettman a contribué avec NBC à la popularité du hockey aux États-Unis. Et même si on questionne certains marchés qui existent, comme Phoenix, comme Caroline, comme Floride, on est obligé de constater...
Ils sont capables de garder en vie.
Ben oui, et que la Ligue nationale fonctionne très bien au niveau économique dans un marché avec des grandes villes et d'autres qui souffrent un peu. Ça fonctionne, le modèle actuel.
Maintenant, on va parler de golf. Évidemment que Tiger nous a donné le goût de parler de golf, de parler de lui en fin de semaine dernière avec sa victoire dimanche au championnat de la PGA. Et là, ben, la table est mise pour la Coupe Ryder à Paris, en France. Ça va être grandiose, j'imagine, surtout avec toute la fébrilité qui entoure la présence de Tiger. Dire qu'il aurait pu être là comme adjoint au capitaine. Hein?
C'est incroyable. C'est incroyable ce revirement-là, Mario. Et on peut pas dire non plus que Jim Furyk avait pas vu de ses yeux comme capitaine de l'équipe américaine la performance progressive et constante de Tiger Woods cette année. C'est pas juste en fin de semaine que Tiger était bon cette année.
C'est une pente.
Il a été un meneur pour quelques minutes au British Open. Il a été aussi meneur. Il a terminé deuxième dans le PGA Championship. Il a eu des bons tournois depuis le début de l'année. Il a terminé d'ailleurs deuxième dans la Coupe FedEx. Et c'est pas juste uniquement à cause de sa victoire. Fait que c'était un choix qui devenait inévitable. Et rajouter lui comme choix du capitaine, avec Phil Mickelson entre autres, ben regarde ce que ça donne à l'équipe américaine comme composante et regarde ce que ça donne à NBC comme plateforme pour diffuser le talent et les vedettes. Alors, la Coupe Ryder, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. Ça a commencé en 1927. C'est la 42e édition. C'est toujours US contre l'Europe. Et les Américains ont gagné de façon décisive la dernière fois aux États-Unis. Là, ils se transportent à Paris. Mario, pour avoir vécu à Paris longtemps, pour avoir joué 12 de rondes au Club de golf national, terrain public, à Paris en banlieue à 30 km, un super terrain, mais facile pour les golfeurs moyens comme moi, facile voulant dire facile d'accès, facile de en termes de niveau de compétition, qui va évidemment être à la fine pointe, mais c'est merveilleux que le golf va conquérir un autre pays. Un autre marché nouveau.
Parce que le golf en France, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport très pratiqué ou très populaire?
Il n'y a même pas 10 % des Français qui sont intéressés par le golf, selon les études. Le golfeur le plus connu qu'on a eu en France, c'est Jean Van de Velde, qui
s'est écroulé s'en souvient.
À Carnoustie en 1999. Il n'y en a pas de golfeurs membres de l'équipe de la Ryder Cup européenne. Mais à Paris...
Spécial qu'on ait choisi Paris.
Absolument. C'est spécial, puis c'est bon pour le golf en France. C'est bon pour l'énergie en Europe, comme continent, de se retrouver dans une ville comme Paris. Parce que littéralement, c'est une banlieue parisienne. Les gens vont tous être à Paris même pour leurs activités hors terrain. C'est un tournoi super. Alors, 51 000 billets en vente par jour, ça va être complet. Donc, on parle d'à peu près 250 à 260 000 billets. Il y a des gros commanditaires comme Emirates, comme Rolex, comme BMW. Mario, c'est un gros événement. La chose à noter, c'est que les joueurs ne sont pas payés. L'argent que les joueurs reçoivent, c'est à peu près 200 000 $. ils le donnent par obligation à des œuvres de charité, de leur choix, communautaires, scolaires. Alors, les joueurs défendent les couleurs de leur pays. C'est un événement patriotique. C'est un des rares événements où l'Amérique entière, comme aux Jeux olympiques, se range derrière USA. Mmh. Alors, c'est ça qu'on entend toujours sur le terrain. Et c'est très différent d'un match de golf où il y a une énorme concentration, puis le silence qui règne partout. Non, non, là, c'est la folie avec des cheerleaders sur le côté. Les gens deviennent fous lorsqu'ils réussissent un pote. C'est une compétition à plusieurs niveaux.
Les joueurs se permettent des comportements que jamais ils ne se permettraient dans d'autres Absolument. Circonstances. Je me rappelle encore Rory McIlroy qui fait son signe, tu sais, en voulant dire, je vais vous tenir au silence. Et là, c'est comme si on jouait une bande de chums, à la limite,
Exactement.
Qu'on se tire la tête. Mais là, c'est vrai, là.
Ouais, puis c'est 12 joueurs contre 12 joueurs, puis t'as un total de 28 matchs en 3 jours. C'est très intense. Ça prend 14 points et demi pour gagner le tournoi. Si les Américains en ont 14, puisqu'ils sont détenteurs, ils gardent la Coupe Ryder.
Les cotes d'écoute devraient être intéressantes si on considère les cotes d'écoute du week-end dernier là, que Tiger a aidé à propulser sur NBC, Ray.
Tout à fait. Et c'est grâce à Tiger, justement, que les Américains vont être rivés derrière ça. Alors, quand on parle de Tiger Woods, je veux juste, tu le mentionnes, les cotes d'écoute la semaine passée, en hausse, le Tour Championship de 206% versus l'année précédente. Le plus gros tournoi en 12 ans de la FedEx Cup en termes d'audience télé. Il a contribué lui-même au British Open à une hausse de 60% des cotes d'écoute. Au PGA Championship, 73%, Mario. Mais là, c'est 206%. Je veux juste qu'on comprenne là, qu'il n'y a pas un athlète aujourd'hui qui réussit à rallier les gens et les river devant la télé. Ils aiment pas tous Tiger, mais c'est un...
Ils aiment pas tous le golf non plus.
Non, non, absolument pas. Mais... C'est des occasions, mais c'est la ferveur. C'est l'effet Tiger Woods qui fait en sorte que les gens arrêtent et regardent ce que Tiger faisait avant. Il est redevenu le Tiger Woods d'autrefois. C'est incroyable, pareil.
Il y a des golfeurs qui le remerciaient publiquement là, cette semaine. J'oublie les noms, mais sur Twitter, en voulant dire merci au nom de nos familles ou presque, parce que on va faire un petit peu plus d'argent aussi. Je pense qu'il y a des bourses qui vont augmenter. Peux-tu attribuer ça au retour de Tiger ou ce serait d'un art assez large?
Écoute.
La Coupe FedEx l'an prochain, je pense que ça va grimper à 15 millions pour le gagnant. Mais peux-tu attribuer ça à Tiger ou on serait arrivé là quand même?
Non, on ne serait pas arrivé là. Il n'y aurait jamais les bourses qu'on a là aujourd'hui. Comme le tournoi dans la fin de semaine, ça lui a donné 1,6 million dans ses poches, en plus du 3 millions d'avoir fini deuxième dans la Coupe FedEx. Mais le point, c'est qu'il n'y aurait jamais d'argent comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont fiers et heureux de pouvoir compétitionner contre le vrai Tiger. Je termine avec une autre note sur NBC Channel pour toutes les plateformes de NBC numérique. Dimanche, lors de la ronde finale, 18,4 millions de minutes vues sur les plateformes, une hausse de 560% vis-à-vis l'an passé. Et l'effet, c'est Tiger Woods.
Ben oui, c'est
Alors,
sûr.
Alors, uniquement, Tiger sur le leaderboard, si tu me permets l'expression, le tableau des meneurs le dimanche, là, tout le monde arrête de vivre pour un moment pour regarder Tiger Woods jouer.
Assez incroyable tout ça comme chiffre. Ray, je te remercie beaucoup. On se reparle bientôt, évidemment.
Merci, Mario.
Merci, Ray. Et dans un instant, il est intronisé au Panthéon des sports du Québec ce soir à Montréal. Nul autre que Denis Savard qui sera avec nous après la pause.